Donc, Frédéric Dabouy, ex-prof d'histoire géo. Bon, je me suis intéressé à l'histoire à peu près depuis mon plus jeune âge. L'histoire des idées et aussi, surtout, l'histoire sociale. Parce que, en fait, bon, si on va dans des grandes librairies, on va trouver surtout l'histoire des têtes couronnées, des puissants, des hommes politiques bourgeois, etc., etc. Bon, et c'est rare qu'une biographie d'un homme politique bourgeois soit critique. Alors je dis ça parce que je viens d'en lire une qu'un copain m'a passée. C'est une biographie de Churchill par Tariq Ali, qui était un militant de la Quatrième Internationale dans les années 70 au Royaume-Uni, donc lui-même d'origine pakistanaise, et qui a fait un bouquin super, qui est aussi un pavé. Désolé. Qui s'appelle Churchill, sa vie, ses crimes. Bon, je vous conseille la lecture si vous avez l'occasion, le temps, etc. Alors, en ce qui me concerne, j'ai deux personnes. Enfin, bon, je tiens d'abord à remercier la librairie Les Nuits Bleues là, pour me permettre de faire cette présentation. Il y a deux personnes, en fait, qui m'ont marqué. Il y a Jean Maitron, qui a été à l'origine, donc qui était un ancien instituteur, qui a été communiste, qui a été au PSU ensuite,
Bonsoir.
qui était, bonsoir, qui a été aussi dans mon jury de maîtrise sur le Parti ouvrier paysan en 1929-1930. Et Jean Maitron, donc l'originalité de sa recherche historique, c'est d'avoir voulu faire l'histoire du mouvement ouvrier, donc c'est lui qui est à l'origine des biographies qu'on peut consulter maintenant sur le site metron.fr. Donc maintenant, tout est accessible en ligne, alors qu'il y a quelques années, c'était accessible seulement aux chercheurs. Et donc, son idée de départ, c'était de faire les biographies, de collecter les biographies non seulement des principaux dirigeants du mouvement ouvrier et socialiste, du mouvement syndical aussi, de toute tendance, mais aussi les biographies au maximum des militants de base. C'est-à-dire faire une histoire populaire. Et donc l'idée a été reprise ensuite, et le Maitron continue plusieurs dizaines d'années après la mort de Jean Maitron. Mais en gros, donc l'histoire que j'ai voulu faire, c'est l'histoire de militants de base, quoi. L'autre personne qui m'a un peu influencé, on aurait dû commencer avec le quart d'heure en jeu. L'autre personne, bonsoir. L'autre personne qui m'a influencé, alors quand j'ai été nommé en Anjou par le grand ordinateur de l'éducation nationale en 1975, c'est Maurice Popraine, qui était lui aussi un ancien instituteur syndicaliste, qui a écrit plein d'ouvrages sur le mouvement ouvrier angevin, à partir du moment où il a été en retraite. Donc en 1964, il a fait paraître Syndicats et luttes ouvrières au pays d'Anjou. Alors maintenant, c'est des raretés, hein, on ne le trouve plus nulle part, peut-être à la Bibliothèque Toussaint, tant qu'elle est ouverte. Mais voilà, donc jusqu'en 80, son dernier petit bouquin, quelques années avant sa mort, c'était une histoire des 1er mai en Anjou, avec toujours le souci de raconter l'histoire un peu par en bas. Donc il a commencé par éplucher les archives de la CGT angevine, dont les documents étaient conservés à l'époque chez Force ouvrière. Puisque quand il y a eu la scission syndicale de 1948, ces forces ouvrières, enfin la tendance force ouvrière de la CGT qui était majoritaire en Maine-et-Loire, et donc ils ont tout gardé, je pense, bon, non seulement les archives, mais aussi la caisse et d'autres choses, quoi. Bon, donc il a travaillé là-bas. J'ai même travaillé aussi dans leurs locaux il y a quelques années. Maintenant, ils ont tout déposé aux archives départementales. Bon, c'est plus facile, effectivement, quand c'est aux archives départementales. Enfin, donc, voilà, les deux personnages dont j'ai essayé de m'inspirer, c'est Jean Maitron et puis Maurice Popraine. Alors, qu'est-ce qui a été le déclic qui m'a poussé à faire des recherches à partir des années 80? C'est ben, un copain du syndicat CGT des métaux et de la LCR de l'époque, Didier Testu, bon, qui est maintenant à Lutte ouvrière, qui m'a évoqué les archives du mouvement ouvrier en Anjou et qui m'a montré qu'elles étaient extrêmement riches. Et en particulier, donc c'est important parce que les sources sont indispensables pour rédiger une histoire d'un mouvement ouvrier local, enfin l'histoire en général, mais bon. Et là, donc, on avait à la fois alors des choses que je connaissais déjà parce que je les avais consultées à Paris, les archives de Louis et Gabriel Bouet, qui étaient des instituteurs syndicalistes révolutionnaires au début du siècle, donc qui ont exercé jusqu'en 1935, à peu près, dans le département, non sans difficulté, non sans répression et tout ça. Donc, avec une correspondance, des lettres personnelles, une correspondance extrêmement abondante sur toute la période où ils ont été militants. Donc, ça a été très utile pour la période de la guerre, où les publications, les tracts étaient impossibles en fait. Aucun journal, aucun tract ne pouvait être diffusé. Enfin, anti-guerre, contre la guerre impérialiste de 1914-1918 ne pouvait sortir. Ou alors c'était des petits bulletins qui circulaient clandestinement, qui étaient envoyés dans des enveloppes anonymisées, tout ça. Mais bon, donc la correspondance privée, c'était important. Enfin, c'était une correspondance privée, mais très politique. Donc Louis et Gabriel Bouet. Donc souvent c'était des couples d'instituteurs aussi hein, dans le milieu révolutionnaire de l'époque. Il y avait effectivement des gens hein, isolés. Bon, Maurice Popraigne était tout jeune à l'époque, donc bon, il apparaît moins. Mais ceux qui étaient les plus actifs, c'était des couples comme les Bouet et aussi Henri et Yvonne Dufour. Donc, Yvonne Dufour, elle est surtout connue pour avoir animé un groupe féministe de l'enseignement laïque dans les années 1920 jusqu'au début des années 30, enfin jusqu'à la disparition de cette première vague féministe. Mais bon, voilà, c'était souvent quand on fait référence à l'un, en fait, un document de l'un, souvent on dit qu'en fait, ça a été écrit par les deux, c'est signé Louis Bouet ou Gabriel Bouet, mais c'est les deux qui sont les rédacteurs, en fait. Donc beaucoup de couples militants. Et puis, alors, bon, la grosse masse de la documentation, quand même, ce sont des journaux donc, qui recommencent à paraître à partir du printemps 1918, enfin, très exactement pour le 1er mai 1918. Ça va, je parle assez fort, tout le monde m'entend. Bon. Donc le 1er mai 1918, il y a un journal, un hebdomadaire, qui commence, enfin un quasi-hebdomadaire d'abord, hebdomadaire ensuite, qui commence à reparaître. Alors il y a la censure qui agit toujours hein, jusqu'à la fin de la guerre, mais donc c'est l'effort social qui est publié par en gros le Parti socialiste qui commence à se reconstituer aussi. Les syndicats qui recommencent à fonctionner, il commence à y avoir des grèves à partir de 1917, quelques grèves. Et voilà, donc ça, c'est une source importante d'informations. Et d'autant plus qu'il y a aussi alors, les coopératives dans cette histoire. C'est un journal commun au Parti socialiste, au syndicat, enfin à la CGT et aux coopératives. Angevine. Et ça a aussi l'avantage d'être un journal ouvert, ouvert à toutes les tendances et à tous les débats politiques qu'il pouvait y avoir à l'époque. Donc, pour donner un exemple, en 1920, juste avant le congrès de Tours du Parti socialiste, qui va donner naissance au Parti communiste, enfin, qui va provoquer la scission entre socialistes et communistes, il y a un texte de Pierre Kropotkine qui est publié dans ce journal. Et donc par rapport à la révolution russe. Voilà. Donc un texte qui est intéressant, dont je cite quelques extraits dans mon bouquin. Mais voilà, donc, première source, ça. Et après la scission, donc il y a une scission, et là, c'est donc le Parti socialiste. J'ai parlé de la scission de 48, mais bon, la scission de janvier 20, enfin, décembre 1920, janvier 21. Là, sont les réformistes qui sont minoritaires. On en joue comme dans la plupart des départements, mais c'est eux qui ont les rênes du journal, donc de l'effort social, et c'est eux qui ont la caisse du Parti socialiste. Bon, ils gardent tout, ils gardent les fichiers, ils gardent la trésor, enfin bon. Et donc du coup, après avoir essayé de négocier, les communistes, enfin la majorité autour de Louis Bouet, décide de sortir un nouvel hebdomadaire qui s'appelle L'Anjou communiste. Alors, c'est le titre complet, c'est L'Anjou communiste, syndicaliste et coopératif. Avec, en gros, bon, l'idée, c'est une page politique, enfin sur 4 pages. Hein. Bon, c'était pas énorme, mais 4 pages, enfin grand format, toutes les semaines, c'était quand même important pour structurer un nouveau parti. Et donc il y a une page un peu de faits divers, de pointes rouges, de choses comme ça pour taquiner la bourgeoisie locale ou les réformistes, tout ça. Et puis il y a une page pour les syndicats, une page pour les coopératives. Enfin ça c'est en théorie, parce que parfois la page syndicale déborde ou la page politique déborde, mais voilà. Et dans cet hebdomadaire qui a existé donc de mars 21 à septembre, si je ne me trompe pas, septembre 1923, y a énormément de débats. C'est extrêmement riche, il y a énormément de thématiques. Et donc, bon, s'il n'y avait pas eu ces sources-là, j'aurais pas pu écrire bon, les 540 pages du pavé, quoi. Alors, du coup, aussi, ça donne le cadre du travail. Alors, 1914, en gros, c'est parce que les travaux de Maurice Poprène s'arrêtent en 1914, à la veille de la guerre. Donc, je me disais, bon, il faut continuer ce travail-là. Alors, je pense que, alors, je parle pour des camarades qui s'intéressent au mouvement anarchiste en Anjou avant 14. Il y a énormément d'archives sur le mouvement anarchiste avant 14. Maurice Poprenne n'a pas travaillé sur cette question-là, sur l'aspect politique. Il a plus travaillé sur le mouvement social, sur les métiers aussi. Il a fait pas mal de bouquins sur les cordonniers en Anjou, les tisserands des Mauges, etc. Et voilà. Donc moi, j'ai décidé de commencer à partir de... Enfin, j'avais décidé ça au début des années 80, quoi. 1900, donc 1914, pour le début. Et alors la fin, bon, après avoir exploré un peu les autres archives, j'ai décidé de m'arrêter, je crois que j'ai bien fait, sinon ça aurait été illisible. Je me suis arrêté en 1923, qui est la fin du journal L'Anjou communiste. Bon, ça fait bon, un ensemble qui se tient à peu près avec des personnages qu'on peut suivre de 1918, enfin de 1914 pour les Bouets, jusqu'en 1923-24. Et bon, c'était déjà pas mal, quoi. Alors, ensuite, bon, quelques thématiques que j'aborde dans le bouquin. Donc, c'est surtout pour ceux qui l'ont pas encore lu. Un petit sondage, qui est-ce qui l'a lu en entier? 3, 4. Bon, d'accord. Donc. Bon, t'es quand même dans les bons. Bon, il n'y aura pas d'interro écrite à la sortie. Hein. Donc, le début du bouquin, en fait, c'est sur une situation bon, que ni vous ni moi n'avons connue, heureusement, pour l'instant. C'est une situation de guerre. Donc il y a la guerre qui éclate en août 14, et bon, il y a ce phénomène d'union sacrée qui emporte la CGT, qui jusque-là était antimilitariste, bon, anti-impérialiste, tout ça, syndicaliste révolutionnaire. Donc la CGT se rallie à l'union sacrée, derrière un gouvernement bourgeois. Donc je dis que c'est une guerre impérialiste, parce que c'est une guerre, de mon point de vue, entre des grandes puissances capitalistes, qui cherchent à étendre ou à enfin étendre leur domaine mondial, leur zone d'intervention mondiale, soit garder leurs colonies, soit prendre les colonies des autres. Mais c'est une sorte de tentative de faire un nouveau partage du monde par rapport à celui qui avait été effectué déjà, par exemple en Afrique, la conférence de Berlin en 1885. Donc voilà, donc c'est une guerre dans laquelle aucun travailleur, ni en Europe ni dans le reste du monde, n'a un quelconque intérêt. Donc normalement, dans une situation comme ça, qui est pas tombée comme ça du jour au lendemain, c'était discuté depuis le début du XXe siècle, dans tous les congrès internationaux de l'Internationale socialiste en particulier, quelle position adopter contre la guerre. Bon, la position qui avait été définie au congrès de l'Internationale socialiste à Stuttgart en 1907, c'était de dire, bah, si on n'arrive pas à empêcher la guerre par une grève générale, au moins, on va essayer d'utiliser la guerre et l'affaiblissement de certains gouvernements pour préparer, c'était une phrase proposée par Lénine et la gauche de l'Internationale socialiste, pour préparer, enfin pour précipiter la chute de la domination capitaliste. Voilà, c'était le terme. Donc c'était en gros la loi pour l'Internationale socialiste. Et puis, bon, bah, les socialistes allemands votent les crédits de guerre en août 14, de leur côté, au Reichstag. Les socialistes français vont voter les crédits de guerre en France, à la Chambre des députés. La CGT, qui était syndicaliste révolutionnaire, on aurait pu penser qu'elle aurait, au moins pas pris position. Bon, elle rentre dans l'Union sacrée, elle décide de soutenir le gouvernement. Alors, les mauvaises langues ont dit que, il y avait eu des pressions sur Léon Jouhaud, donc il y a une rue pas loin, qui était secrétaire général de la CGT et qui était anarcho-syndicaliste. Des pressions sur Léon Jouhaud, en gros, si tu prends pas position pour soutenir le gouvernement, bah, tu vas aller au front. Donc, ce qui est arrivé pour pas mal de militants qui ont refusé l'Union sacrée, qui ont été envoyés au front. Il y en a plein qui sont morts, des instits, des métallurgistes et tout ça. Mais, donc, du coup, il n'est pas allé au front. Et du coup, bon, il a été épargné par la répression. Donc, ça a été vraiment une rupture pour les syndicalistes révolutionnaires de l'époque, pour les socialistes de gauche, donc Louis Bouet. L'instituteur Louis Bouet, donc, il était à la fois syndicaliste révolutionnaire, syndiqué à la CGT. Ça avait été une bataille au début du XXe siècle pour syndiquer les instituteurs à la CGT, ce qui n'était pas évident. Hein. Jusque-là, ils étaient dans des amicales. Ils sont restés longtemps dans des amicales, enfin jusqu'aux années 20, des amicales corporatistes. Donc Louis Bouet était syndicaliste révolutionnaire. Il était aussi membre de l'aile gauche du Parti socialiste qui était représenté par Gustave Hervé, qui était un antimilitariste farouche, qui avait fait de la prison. C'était un prof, mais bon, il était allé ju jusqu'à la prison pour des articles ou des conférences antimilitaristes. Et puis, bah, en 14, Gustave Hervé retourne sa veste aussi. Donc là, enfin, il y a beaucoup de gens qui se sont trouvés orphelins du mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier officiel, c'était la CGT, le Parti socialiste. Voilà. Donc, il faut dire que dans cette situation-là, il y a eu une pression énorme sur les militants qui voulaient continuer la lutte contre, enfin, qui voulaient lutter contre la guerre. Et, bon, j'en donne un exemple. Louis Bouet a essayé de contacter la Bourse du Travail d'Angers pour organiser une réunion en 1915 avec bon, une opposition qui commençait à apparaître dans la CGT et dans le Parti socialiste. Bon, une opposition vraiment très très minoritaire, mais bon, il essaye de contacter la Bourse du Travail d'Angers. Ah, pas de chance, bon, c'est l'armée qui occupe la Bourse du Travail pour je ne sais quoi, là. Donc, pas possible de faire une réunion à la Bourse du Travail. Il essaye de faire une réunion privée. Bon, il y a une personnalité du syndicat, enfin de la Fédération des métaux, qui est pressentie. Bon, elle est dissuadée par la police, fermement, sous peine d'aller en taule, de venir faire une conférence à Angers. Bon, en fait, il n'y aura jamais de réunion avant, de vraie réunion avant 1918, de réunion anti-guerre plus ou moins ouverte à Angers. Bon, on a eu quand même, donc pour l'instant, on n'a pas vécu de guerre, on a eu quand même, il y a quelques semaines, un petit avant-goût de ce que ça peut donner, une ambiance d'union sacrée avec les interdictions de manifestations de solidarité avec Gaza. Avec des interdictions même de réunions publiques en salle. Hein. Et bon, il y a eu quand même une pression énorme sur un certain nombre d'organisations politiques. Hein. Je ne détaille pas, mais voilà. Donc en 1914, 1915 et jusqu'en 1917, cette pression, c'est un peu ce qu'on a connu, mais multipliée par 10, au moins multipliée par 10. Donc voilà, donc je parle de tout ça. Et puis. Évidemment, le retournement de situation, il est lié à la situation en Russie. En 1917, il y a le renversement du régime tsariste, du régime impérial, donc qui était bon, la Russie, c'était une prison des peuples. Hein. Donc c'est une bonne chose, mais le nouveau régime qui est donc toujours, qui reste dans l'alliance avec la France et l'Angleterre, la Triple Entente, ce nouveau régime. Qui est tombé grâce à une mobilisation populaire, en particulier des femmes, contre la guerre, en mars 1917. Le nouveau régime décide, un, de continuer la guerre, et deux, de refuser la réforme agraire, parce que ça diviserait la population. Et puis, bon, les notables qui dirigent la Russie à partir de. Enfin, parmi les notables qui dirigent la Russie à partir de mars 1910, de mars-avril 1917, bon, il y a des gros propriétaires fonciers. Bon, donc pas question de faire une réforme agraire, de changer la structure de la société russe qui était très arriérée. Du coup, il y a une deuxième révolution en octobre, et bon, ça vous le connaissez certainement, donc il y a l'arrivée au pouvoir des bolcheviks, bon, qui au départ sont pas tout seuls à gouverner. Ils gouvernent avec des socialistes révolutionnaires de gauche, donc une branche du mouvement populiste russe qui s'était fait connaître à la fin du 19e siècle, au début du 20e, par des attentats ciblant les personnalités dirigeantes de l'époque, hein, les hauts fonctionnaires du tsar ou même le tsar lui-même. Bon, donc l'aile gauche de ce mouvement-là se rallie au nouveau gouvernement. Dominé par les bolcheviks. Et là, il en sort un appel à la constitution en fait, d'une nouvelle internationale qui va être l'internationale communiste. Donc l'internationale communiste, elle est formée début 1919. Et cette internationale communiste, elle est faite en réaction avec ce que Lénine appelait la faillite de la première internationale en août 1914, avec le vote des crédits de guerre dans pratiquement tous les pays. Hein, en Europe, les seuls sociaux-démocrates qui n'ont pas voté les crédits de guerre, bon, c'est ceux qui étaient réprimés en Russie, évidemment, donc à la fois les bolcheviks majoritaires à cause d'un congrès où ils étaient trop pelés et intondus, mais où il y avait une majorité pour Lénine, et les menscheviks, donc les minoritaires, mais aucun des deux partis n'a soutenu la guerre en Russie, quoi. Bon, il y avait les sociaux-démocrates bulgares. Alors oui, il y a eu des conférences entre-temps, hein. Zimmerwald en 1915, qui ont essayé de regrouper l'opposition à la guerre au niveau international. Ouais, mais bon, j'essaye de faire court, ça va pas être facile. Et je parle depuis. Bon. Il y a eu Kental en 1916 aussi. Bon, à l'époque, il y a des gens qui ont dit, des mauvaises langues, qui ont dit que les internationalistes alors, pouvaient tenir, non pas dans une cabine téléphonique, mais dans une ou deux voitures, en fait. Hein. La conférence de Zimmerwald, c'était très, très ténue. Hein. C'était quelques révolutionnaires russes ou. Bon, il y a eu quelques Français, bon, des syndicalistes, puis les politiques sont venus plutôt en 1916, mais bon, donc c'était vraiment très, 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 très ténu, et puis c'était risqué aussi, hein, c'est-à-dire c'était risqué des mois, sinon des années de tôle. Bon, je rappelle que dans cette période-là, à partir de 1915 en Allemagne, une personnalité, une des, enfin, des principales personnalités de la social-démocratie allemande, qui était Rosa Luxembourg. Elle a été mise en taule à partir de 1915, elle n'en est sortie qu'à l'automne 1918. Sortie de forteresse à l'automne 1918, pour être assassinée en janvier 19. Il y avait des risques aussi bien du côté de l'État que du côté de ceux qu'on pourrait appeler les fachos, quoi. Donc, cette internationale communiste a été créée, par le sommet, on va dire, par des militants qui étaient des militants russes essentiellement bolcheviques. Donc le parti bolchevique s'est transformé en parti communiste russe. À la conférence de fondation, il y avait des divergences. Il y avait des divergences parce qu'il y en avait qui voulaient essayer de redresser ce qui pouvait être redressable dans l'internationale socialiste. Et puis ceux qui disaient, bon, non, il n'y a plus rien à tirer de l'internationale socialiste, elle a failli, point barre, quoi. Ça, c'était la position de Lénine. Les communistes allemands, donc, qui avaient formé un des premiers partis communistes donc en décembre 1918, le KPD, issu de la Ligue Spartacus fondée elle-même par Rosa Luxembourg. Donc les communistes allemands n'étaient pas très chauds pour proclamer l'internationale communiste. Mais bon, ça a été fait. Et du coup, il y a eu un appel à former des partis communistes dans tous les pays. Et en France, et l'appel était tellement large qu'en France, donc non seulement il y a eu des regroupements avant même la fondation du Parti communiste historique en décembre 1920 au Congrès de Tours, il y a eu par exemple une fédération communiste des soviets qui a plutôt été créée par des libertaires, on va dire, des gens qui étaient issus de la frange libertaire. Et donc, qui n'étaient pas issus du Parti socialiste français. Bon, des gens qui étaient un peu pressés, puis qui ont fait un petit groupe, qui était actif dans la région parisienne, mais bon, qui a disparu assez vite, et dont une partie des militants se sont fondus ensuite dans le Parti communiste. Mais il y a même des. C'est assez curieux, quand on voit des brochures de l'époque, de voir que le syndicat de Maine-et-Loire des instituteurs, celui qui était animé, entre autres, par Louis et Gabriel Bouet, a lui-même adhéré en 1919, il a voté son adhésion à l'Internationale communiste. Bon, qui était au départ, en fait, conçu, donc ça c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop, mais comme la première internationale. Dans la première internationale fondée en 1864, j'essaie de faire court. Donc, avec une adresse inaugurale rédigée par Karl Marx, il y avait aussi bien des politiques ou des intellectuels comme Marx, Engels. Il y avait aussi des syndicalistes anglais, des militants ouvriers français. Enfin, c'était très très vaste. Il n'y avait pas de séparation nette entre le politique et le syndical. Même dans la deuxième internationale, au départ, le clivage entre syndicats et politique n'était pas forcément très net. C'est après, c'est bon, donc avant la fin du 19e siècle, mais donc après la fondation en 1889 de la deuxième internationale, l'Internationale socialiste, que les premières internationales syndicales se sont formées. Donc voilà, donc on a une espèce d'appel à des groupements communistes et révolutionnaires. Et là, ça va produire quelque chose de curieux en Anjou. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, effectivement, qui méritait de faire cette étude, quoi. C'est que le terme communiste a été repris par Lénine dans en fait, l'héritage libertaire. Je m'explique. En fait, dans les années 1900 à 1914, ceux qui se nommaient communistes, c'était en fait plutôt les gens qui appartenaient au courant anarchiste ou libertaire. Bon, il y avait plusieurs tendances, plusieurs groupes, mais c'était plutôt eux qui utilisaient le terme communiste, alors que les sociodémocrates, les socialistes, bon, si vous voulez, les héritiers intellectuels et politiques de Marx et d'Engels, bon, les plus connus sont les guédistes, hein, du nom de Jules Guédes, qui était un de leurs représentants, qui était élu du nord de la France, du pays minier. Bon, il n'était pas mineur lui-même d'origine, mais Jules Guesde et les Guédistes, en fait, eux se présentaient plutôt comme collectivistes, socialistes ou collectivistes, mais ils n'utilisaient pas le terme communiste. C'était plutôt, enfin, se dire communiste, c'était plutôt se marquer. Enfin, il y avait enfin, la principale organisation, enfin, les copains anards, vous me corrigez si je raconte des bêtises, la principale organisation anarchiste avant 1914, c'est la Fédération communiste anarchiste révolutionnaire, la FCAR. Bon, il y a eu plusieurs changements de nom, mais voilà. Donc, le fait d'utiliser l'appellation communiste dans la dénomination de la Nouvelle Internationale et de demander à tous les partis de s'appeler Parti communiste. Alors, non pas Parti communiste français, mais Parti communiste section française du Parti mondial de la Révolution, qui était l'International communiste. Bon, c'était quelque chose de marqué, qui était en fait un appel du pied, disons, à la majorité des libertaires qui s'étaient déclarés contre la guerre. Bon, je parlais de Kropotkine tout à l'heure. Bon, pas de chance, Kropotkine en 14, il était. Il y a le texte d'un appel de 1916 qu'il a signé. Il s'est mal positionné. Il considérait que l'Empire allemand, c'était des gens qui mangeaient les petits-enfants. Et donc, il fallait défendre, bon, en gros, les libertés, j'exagère, évidemment. Qu'il fallait défendre la liberté démocratique qui existait en France, mais pas en Allemagne. Bon, quand on regarde de plus près, en Allemagne, il y avait eu une répression féroce du mouvement socialiste sous Bismarck. Et à peu près jusqu'en 1900, mais à partir de 1900, bon, le Parti social-démocrate allemand s'est développé sans encombre, on peut dire, jusqu'en 1914, avec bon, la théorisation, je veux dire, mécaniste et bureaucratique, du fait que, bon, bah, on se présente aux élections, la première fois, on va faire 5%, la deuxième fois, 10%, ensuite 15%, ensuite 20%, puis un beau jour, on va arriver à 51%, et là, la révolution socialiste, ça sera fait. Voilà. Bon, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, hein. Mais voilà, il y avait un peu ça derrière l'idéologie de la social-démocratie allemande et de sa bureaucratie. Donc, on arrive donc en 1919, on commence à se former des petits groupes qui sont intéressés par le mouvement communiste, et ça coïncide avec les premières grèves, donc des grèves, quelques grèves au printemps 1917. Printemps 1917 à Angers, bon, il ne se passe pas grand-chose au niveau des grèves, mais il y a quand même dans les archives de police, alors là, bon, je n'ai pas parlé des archives de police comme source parce qu'elles sont toujours biaisées. Mais elles peuvent être utiles, et elles sont utiles parce que ça m'a permis de retrouver un peu la trace d'une personne qui a été citée dans la presse locale au printemps 17, Geneviève Le Boucher, qui était une ouvrière de Montreux-Juigné, je crois, qui devait travailler pour l'armée en plus. Et Geneviève Le Boucher, dans un transport en commun, elle invite les gens à faire grève et à se soulever pour, bah justement pour précipiter, comme disait l'international socialiste en 1907, précipiter la chute de la domination capitaliste, prendre le pouvoir aux travailleurs, etc. Bon, pas de chance, elle a été dénoncée, il devait y avoir un flic pas très loin. Et donc, elle a été arrêtée le jour même, condamnée à plusieurs mois de prison, etc. Une grosse amende, enfin pour le salaire d'une ouvrière, c'était énorme. Voilà. Et je l'ai retrouvée dans les archives de police. Bon, malheureusement, elle a, enfin, à ma connaissance, pas eu d'activité politique par la suite. Mais bon, c'est un premier indice qu'il y a quelque chose qui bouge à la base, parce qu'elle n'est pas militante connue d'avant 14. Bon, on connaît les noms des militants d'avant 14. Elle n'est pas connue après, alors ni en Maine-et-Loire, ni dans la Sarthe, où j'ai fait une petite recherche. Elle était originaire de la Sarthe. Donc, bon, voilà, une militante. Enfin, pour moi, c'est une militante. Elle a milité contre la guerre, même si elle n'était pas cartée ni à la CGT, ni au Parti socialiste à l'époque. Donc, voilà. Elle a subi la répression de plein fouet. Après, en 1918, là, c'est plus compliqué, parce qu'effectivement, il y a eu la révolution russe, ça bouge un peu partout en Europe, il y a des régimes qui commencent à flancher, et donc il y a des grèves qui commencent à apparaître, et la presse socialiste qui reparaît aussi en Maine-et-Loire. En 1919, c'est un cran au-dessus, et bon, disons l'apogée du mouvement de grève, c'est 1920. C'est le printemps 1920, avec essentiellement une grève, plusieurs grèves même, des cheminots, depuis le début de l'année jusqu'au printemps. Bon, des grèves alors qui sont en partie spontanées, mais en partie contrôlées par l'état-major de la CGT, où il y a toujours le fameux Léon Jouault, bon, qui a pris un peu ses distances avec le gouvernement d'unité nationale, mais qui est toujours très réformiste et surtout qui ne veut pas créer de, on va dire, de difficultés à la bourgeoisie. Ça, c'est très clair. Donc, il y a un mouvement qui monte dans plusieurs corporations et au lieu de favoriser bah, ce qu'on appelle aujourd'hui le tous ensemble, la grève générale, etc. C'était un débat qui existait avant-guerre et avant-guerre, le comment dire la La loi de la CGT, c'était vers la grève générale, c'était la perspective. Là, Jouault fait en sorte de saucissonner corporation par corporation cette vague de grève. Donc, il y a, bon, je me souviens plus du détail, hein, c'est dans le bouquin. Mais voilà. Donc, le débat de l'époque dans la CGT, c'est et ça apparaît dans les sources, c'est est-ce qu'on va vers une grève, est-ce qu'on essaye de favoriser une grève générale ou est-ce qu'on comment dire, bah, se contente de montrer son indignation face à la hausse des prix, à l'inflation, à la misère, corporation par corporation. Voilà. Est-ce qu'on se met tous ensemble ou pas? Donc ça a été un des gros débats et ça a été l'origine, c'est pas la seule, mais de la rupture entre... Bah, deux figures importantes de l'époque en Maine-et-Loire, qui sont donc Louis Bouet, donc instituteur syndicaliste, et Ludovic Ménard, qui était enfin, qui est toujours la grande figure du mouvement des ardoisiers depuis, en gros, les années 1880. Alors, Ludovic Ménard, donc, il était ardoisier, né en 1855, décédé en 35. Et donc c'est vraiment le... Bon, il a sa statue ou son buste à Trélazé. C'est vraiment... Bon, à Trélazé, vaut mieux pas dire du mal de Ludovic Ménard. Bon, c'est une réalité quand même. Il a fait énormément pour les ardoisiers. En particulier, son gros combat, ça a été, partir du début du XXe siècle, d'essayer de promouvoir l'assimilation des ardoisiers aux mineurs de fonds. Les mineurs de fonds, qui étaient super bien organisés depuis longtemps, avaient un statut qui était largement supérieur à celui des ardoisiers. Bon. Et donc il a réussi à obtenir ça, d'abord en regroupant les syndicats d'ardoisiers, non seulement de l'Anjou, mais d'autres départements. Ensuite, en faisant fusionner la Fédération des Ardoisiers avec la Fédération des Mineurs pour former la Fédération du Sous-sol de la CGT, donc ça avant 1914. Et bon, si les Ardoisiers ont obtenu le statut de mineur en 1920, bon, il faut le dire, c'est pas forcément grâce à l'agitation, bon, Ludovic Ménard commençait à être âgé à l'époque, à l'agitation organisée par la Fédération des mineurs, mais surtout à l'ambiance de grève générale qu'il y avait en France au printemps 1920. Bon, c'est ça qui a été déterminant dans la décision du gouvernement, enfin dans plein de décisions du gouvernement bourgeois de l'époque, c'est-à-dire en 1919 de faire voter vite fait la loi des 8 heures qui était réclamée depuis les années 1880 par le mouvement syndical international, donc la loi des 8 heures, et puis l'année suivante pour les mineurs qui étaient quand même le gros des troupes enfin, de la CGT, l'assimilation donc des ardoisiers aux mineurs. Mais sinon, les mineurs bougeaient, quoi. Donc, débat, réforme ou révolution. Et ce débat, on le trouve dans le journal Les Forces Sociales entre 1918 et 1920, donc entre Ludovic Ménard et Louis Bouet. Donc, il y a tous les arguments qui sont développés. Et tout ça. Bon. Dans cette situation syndicale, il y a évidemment un débat qui apparaît tout de suite. Je l'ai évoqué tout à l'heure, le syndicat des instituteurs qui adhère à l'international communiste. Donc un syndicat qui adhère à une internationale politique. Et là, évidemment, il y a un texte tabou qui est la charte d'Amiens de 1906, qui a été adoptée par le congrès de la CGT en 1906. Et bon, en gros, la charte d'Amiens, qu'est-ce que c'est? Elle est invoquée partout, par Force ouvrière, être invoquée par la CFDT aussi, enfin par des militants de la CFDT ou d'autres. Peut-être par Solidaire. Hein? Bon. Voilà. Bon. La CGT doit l'évoquer de temps en temps, mais la CGT peut-être un peu moins que les autres, parce que dans son histoire, elle a, des périodes où... Enfin, c'était un peu particulier, j'en reparlerai après. Mais en gros, c'est la question des rapports entre parti et syndicat. Dans la charte d'Amiens, en gros, les partis politiques doivent s'occuper des élections. Les partis et les sectes. Bon, les partis, ça renvoyait au Parti socialiste et puis peut-être d'autres petits partis socialistes qui existaient à l'époque. Le Parti socialiste unifié de Jaurès en 1905, a été précédé d'une multitude de petits partis qui ont fusionné en 1905 dans le Parti socialiste unifié, section française de l'Internationale ouvrière, SFIO, bon, qui est l'origine du Parti socialiste d'après. Mais il y avait des scissions avant, il y a eu des scissions après. Bon, voilà, donc les partis doivent s'occuper de leurs affaires électorales en dehors du syndicat et ne pas importer les clivages politiques dans le syndicat. Et de même pour les sectes. Alors, les sectes, dans la charte d'Amiens, c'est les groupes politiques anarchistes qui sont visés eux aussi et qui étaient influents dans la CGT. Bon, peut-être plus influents que les socialistes eux-mêmes qui contrôlaient... Bon, en gros, les socialistes contrôlaient quelques fédérations de la CGT dans le Nord, par exemple, ou quelques unions départementales, enfin les unions départementales qui ont été créées après, mais enfin des structures départementales. Et donc, il y avait ça dans la charte d'Amiens. Et on s'est parlé de... Cela dit, dans la charte d'Amiens, il est dit que la tâche principale du syndicat, c'est quand même d'amener la révolution sociale. C'est pas un texte apolitique, comme on voudrait nous le faire croire, surtout du côté de chez FO à un certain moment, mais c'était une remise en cause. La CGT de l'époque de la charte d'Amiens remet en cause le système capitaliste et appelle à sa destruction. Voilà, bon, donc les choses étaient claires. Mais il y a cet arrière-plan. Alors il faut dire qu'il y a d'autres expériences en Europe du mouvement syndical. Bon, peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais en gros, il y a le syndicalisme allemand qui a été initié au départ, donc je parle d'avant 14, qui a été initié au départ par la social-démocratie, donc marxiste, labellisé par Marx et tout ça. La tradition en Allemagne, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais pendant très très longtemps, ça a été qu'en fait, les grandes décisions d'orientation syndicale se prennent d'abord dans le Parti social-démocrate. Bon, en gros, le syndicat est un peu la courroie de transmission du parti, dans la classe ouvrière. Bon, il n'y a pas que le syndicat, il peut y avoir aussi les coopératives d'ailleurs, mais bon, on va retrouver ça à Angers. Hein. Mais voilà, il y avait cette tradition-là en Allemagne. On peut dire que le PC des années 30, 40, 50, jusqu'aux années 70, s'en est un peu inspiré par rapport à la CGT, enfin, quand il a mis la main sur la CGT, enfin, d'abord sur la CGTU avant la guerre, et ensuite sur la CGT après la guerre. Bon, puis l'autre tradition, c'est la tradition britannique, où, au contraire, ce sont les syndicats, les trade unions, qui ont créé le Parti travailliste pour avoir un relais direct au Parlement britannique. Jusque-là, les syndicats donc, n'étaient pas très, très révolutionnaires hein, en Angleterre à l'époque, étaient plutôt réformistes. Ils utilisaient comme relais le Parti libéral. Bon, en gros, il y avait l'alternance entre les conservateurs, les Tories et les libéraux. Et donc en 1904, ils ont créé le Parti travailliste pour avoir un relais direct. Et pendant très très longtemps, les syndicats ont eu comment dire, un quota important de représentants à la direction du Parti travailliste. Bon, c'est moins vrai aujourd'hui, mais ils ont quand même encore des antennes dans le Parti travailliste. Donc voilà, bon, il y a tous ces débats qui arrivent, qui sont évoqués dans les forces sociales de l'époque. Bon, ce qui est étonnant, c'est de voir des journaux ouvriers avec autant de références aux débats intellectuels, politiques, sociaux de l'époque. Bon. Peut-être un peu plus court. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, donc dans les débats, c'est de voir apparaître la thématique féministe. Alors c'est intéressant parce que déjà avant 1914, la CGT locale, donc avec Ludovic Ménard, qui était quelqu'un d'ouvert à toutes les idées avancées, Ludovic Ménard, donc même s'il était devenu, alors Ludovic Ménard, comment je précise, dans les années 1880, socialiste révolutionnaire. Fin des années 1880, suite au passage. Alors là, il y a plusieurs versions. Enfin, il devient anarchiste. Et ensuite, il finit par adhérer au Parti socialiste au début du XXe siècle. Donc, Parti socialiste, franc-maçonnerie. Et en gros, il devient réformiste. Il a même fait un petit cahier. Il y a aux archives de Trélazé un petit cahier de lui sur l'idée de patrie. C'était une conférence qu'il a faite. Dans une loge maçonnique vers 1910 ou 1912, je ne sais plus. Bon, il devenait un peu plus social-patriote. Mais donc, il était ouvert au féminisme et il a invité à la Bourse du Travail, pour faire des conférences à la Bourse du Travail, les organisations féministes. Alors, à l'époque, bon, il y avait plusieurs organisations féministes. Celles qui étaient dominantes, qui représente plutôt la tendance du féminisme bourgeois, c'est l'Union française pour le suffrage des femmes. Bon, j'ai travaillé un peu sur leurs archives et j'ai fait un petit cahier bon, qui est sur le site du CESA, enfin CESA.fr, hein. Publicité personnelle, bon, pour ceux que ça intéresse, sur ce groupe donc, qui était important chez les instituteurs et surtout chez les institutrices, évidemment. C'était le principal vecteur du féminisme avant 14 en Maine-et-Loire, et donc bon, invité à faire des conférences à la Bourse du Travail. Voilà. Bon, pendant la guerre, donc, ce féminisme bourgeois qui ne demande que le vote, que le suffrage des femmes, qui ne demande pas l'égalité complète, l'égalité juridique complète, et qui ne se positionne pas sur le terrain économique et social. Ce féminisme-là, bon, il est mis en veilleuse. Bon, beaucoup d'entre elles vont participer à l'effort de guerre, c'est assez clair. Et à partir de 1919, quand le syndicalisme se reconstitue, très vite, il y a une branche féministe qui apparaît, alors, toujours dans le milieu instituteur, et en particulier dans celui enfin, de la Fédération des instituteurs. Animé, alors très minoritaire, hein, c'est quelques dizaines de personnes dans le département, animé par Yvonne Dufour, dont j'ai parlé tout à l'heure, et aussi un petit peu Gabrielle Bouet. Donc elles se positionnent, bon, sont évidemment pour l'égalité homme-femme partout, mais pas uniquement sur le plan du droit de vote, elles avancent aussi la revendication de l'égalité salariale, l'égalité économique et sociale. Bon. Et bon, quand on voit un peu comment ça se positionne, enfin, j'ai évoqué ça dans le cahier en question, hein. Comment dire, parmi les femmes qui appartenaient à l'Union française, au groupe Angevin de l'Union française pour le suffrage des femmes, il y avait la femme de l'inspecteur d'académie qui, en 1919-1920, réprimait les autres instituteurs syndicalistes révolutionnaires, donc en particulier Louis Bouet et aussi Gabriel Bouet. Donc ça c'est allé jusqu'à la révocation et donc enfin bon les mutations forcées, enfin des choses très très difficiles à vivre pour la famille Bouet, bon qui avait des enfants et qui était envoyée dans des patelins perdus. Chacun évidemment, l'un et l'autre étant nommés dans des communes différentes. Bon, pour faciliter les choses, et le plus loin possible de Saumur, qui était en gros la base de Louis Bouet, où il publiait, comment dire, l'Anjou communiste à partir de 1921. Enfin bon, c'est voilà. Donc, ils ont essayé. Bon, alors, difficile effectivement de faire cohabiter, de faire agir ensemble, un groupe féministe bourgeois, et un groupe féministe révolutionnaire à l'époque. C'était pas... Voilà. Alors, d'autres questions que j'ai évoquées, c'est bon, par rapport à l'anticapitalisme, évidemment, mais aussi l'antimilitarisme. C'était une des bases de la CGT d'avant 14, donc avec des grandes affiches de l'Association internationale antimilitariste qui ont été placardées dans le département. Il y en a même une qui a atterri dans la Bourse du Travail dans les années 80-90, une archive qui malheureusement s'est délitée à force de rester dans les locaux surchauffés de la FEN et ensuite de la FSU. Mais c'était un groupe, la IA était très active en Maine-et-Loire parce que justement il y avait la gauche socialiste antimilitariste, les syndicalistes révolutionnaires comme Louis Bouet, les anarchistes qui menaçait cette campagne-là. Et le Parti communiste, le nouveau Parti communiste, reprend cette tradition qui est abandonnée par la CGT de Jouot après la guerre, de même que par le Parti socialiste. Les continuateurs de l'antimilitarisme, en fait, c'est le Parti communiste et la CGTU. Et au point de... Bon, ça n'a pas été revendiqué comme ça, parce que ça aurait été trop dangereux de faire ça dans la presse, mais au point de construire, en quelque sorte, une cellule communiste dans une caserne à Cholet. Bon, ils ont essayé de rester clando, mais bon, il y a eu des dénonciations, donc une inspection des casiers, et donc un journal, antimilitariste, quoi, on va dire, un soldat qui a été sanctionné pour ça. Voilà, bon, il y a toute l'histoire dans le bouquin. Il y a un point que j'ai abordé aussi, parce que je pense que c'est important, c'est important aujourd'hui encore. C'était évidemment moins, comment dire, spectaculaire à l'époque, mais c'est la question de l'antisémitisme. Donc l'antisémitisme, on l'attend en général... de la part des cathos intégristes. Il y a la longue tradition de l'anti-judaïsme chrétien depuis le Moyen-Âge. Les juifs qui ont tué le Christ et tout ça, enfin, il y a toutes ces salades-là là, qui traînaient depuis le Moyen-Âge. Bon, et il y a l'antisémitisme populaire, économique, qui apparaît à la fin du XIXe siècle. Bon, et il faut dire que dans le Maine-et-Loire, on n'est pas gâté parce qu'on a les deux. On a donc évidemment la forte tradition de l'Église catholique qui pèse énormément, jusque dans les années 30, 40 même, je dirais. Encore aujourd'hui, il y a les identitaires, en fait, ils sont racistes, mais ils sont aussi antisémites, c'est évident. Parce qu'ils sortent en gros de cette tradition catho-intégriste la tradition de l'antisémitisme économique est apparue en Maine-et-Loire avec un personnage qui est c'est assez hallucinant, qui est glorifié à Montreuil-Bellay. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Non, personne. Donc il a alors pas une statue mais une sorte de, comment dire, de médaillon avec son portrait, enfin bon, à Montreuil-Bellay, parce que le personnage est originaire de Montreuil-Bellay, donc entouré de trois autres célébrités locales. Et Alphonse Toussenel, c'est lui qui a écrit dans les années 1840 Les Juifs, rois du monde. Alors c'est un pamphlet, alors c'est un énorme pavé, hein. Bon, c'est pratiquement comme le mien, quoi. Bon, mais c'est, je regardais, je relisais sa biographie sur le Métron. Donc maintenant, ce n'était pas le cas avant, maintenant il signale bien qu'il est antisémite. Et bon, c'est un des. Enfin, ils le décrivent comme un antisémite obsessionnel et haineux. Alors c'est un mec qui, par ailleurs, était favorable à la coopération, par exemple, pour aider, enfin, pour que la classe ouvrière puisse être moins touchée par la misère, des choses comme ça. Bon. Mais obsédé par l'antisémitisme. Et ce personnage-là, en fait, il a influencé, bon gré mal gré, une partie du mouvement, enfin, j'en suis persuadé, une partie du mouvement ouvrier local. Bon, alors, il n'y a pas qu'en Maine-et-Loire qu'il y a eu des ouvriers ou des responsables politiques de gauche antisémites, hein. Bon, y a un très bon livre sur la question qui est celui de Michel Dreyfus, qui est intitulé, alors qui est paru en 2009, je crois, La découverte, enfin bon. Ça s'appelle L'antisémitisme à gauche. Alors pas l'antisémitisme de gauche, mais l'antisémitisme à gauche. Donc il a fait un travail énorme sur tous les aspects de l'antisémitisme, alors petit ou plus ou moins important. Donc évidemment, il a pas manqué d'épingler Toussenel, hein. Mais donc l'antisémitisme se logeait pratiquement partout, dans les syndicats ou même. Bon, c'est le copain dont je parlais tout à l'heure, Didier Testu, qui me l'avait fait remarquer, même sur des caricatures anticapitalistes de la CGT d'avant 14. Bon, en gros, la caricature du bourgeois par la CGT d'avant, enfin, par les graphistes, les dessinateurs de ceux qui travaillaient pour la CGT avant 14, bon, bah, en gros, il reprenait les caricatures antisémites de la fin du 19e siècle. Et bon, quand je parlais de Toussenel, oui, j'ai oublié de signaler que Toussenel a été l'inspirateur d'Édouard Drumont, qui a écrit La France juive et qui a fait le relais donc depuis Toussenel jusqu'aux gros antisémites du XXe siècle qu'on retrouve dans un certain nombre de, et qu'on retrouve évidemment dans la collaboration entre 40 et 45 en France, quoi. C'est.
Un livre d'un franco-israélien, Ziv Sternel.
Zev Sternel, oui.
Voilà.
Zev Sternel, qui parle de.
Il a abondamment
ouais.
le. Comment dire. La France comme un berceau de.
Absolument. Oui. Oui. Les nazis allemands, en fait, bon. Il y avait de l'antisémitisme en Allemagne avant 14 aussi, mais les nazis, le parti nazi, a pris des éléments intellectuels chez Édouard Drumont, entre autres.
C'est ça.
Donc.
Parle.
Voilà, donc c'est la. Donc un de ses bouts. Oui.
Intellectuel
Donc il y a un de ses bouquins. Ouais. Un de ses bouquins, c'est La droite révolutionnaire. De Zev Sternel, oui. Si je me. Il en a fait d'autres aussi. Ni droite ni gauche, peut-être, si.
Comment?
Ni droite ni gauche.
C'est ça.
Oui, voilà. Donc c'est. Enfin, oui. Bon, il y a plein d'historiens israéliens qui sont super intéressants en ce moment. Bon, il y a Zev Sternel, évidemment. Bon, ça, c'est par rapport à l'histoire du mouvement ouvrier. En France. Puis, par rapport aux événements récents, il y a Ilan Pappé qui a écrit Le nettoyage ethnique de la Palestine. Bon, j'ai lu ça dans la presse aujourd'hui. Et qui a été, donc, il a publié son bouquin chez Fayard il y a une dizaine d'années peut-être. Et qui a été, maintenant que Fayard appartient à Bolloré, puisque Bolloré a racheté Hachette, voilà. Donc il a été retiré des rayons. purement et simplement retiré des rayons. Il n'est plus disponible, enfin, normalement, à moins que qu'il y ait des libraires qui les aient gardés, qui refusaient de les enlever, mais en tout cas, on ne peut plus le commander auprès de Fayard. Je ne sais pas s'ils vont les mettre au pilon, mais enfin bon, c'est une misère.
Tu me permets, mais...
Oui.
Ilan Pappé a aussi été publié dans des éditions militantes. Des éditions militantes. Et donc, preuve s'il en est que...
Oui.
Il faut bien se passer des fois des éditions capitalistes.
Bah, je pense qu'il aurait... Oui. Après, bon, tu publies chez Fayard, tu es sûr d'avoir une distribution large partout, quoi.
La discussion, c'était juste de faire des fois.
Ouais.
Je suis pas là pour discuter, mais je pense.
Ah oui, non.
Je préfère vous laisser continuer.
Ouais. Bon, alors, parmi les débats du mouvement ouvrier qu'on retrouve dans, dans tous ces articles de l'effort social ou de l'Anjou communiste, il y a un débat sur l'école, par exemple. Quel genre d'école ? Bon, alors on connaît en général bon, peut-être plus les gens de ma génération que les jeunes générations. Le mouvement freinait, l'école moderne. Bon, mais voilà, c'était quelque chose qui existait déjà avant 1914. Hein. C'est pas sorti juste dans l'après-guerre ou en 68. Bon, évidemment, je l'ai découvert en 68 et en commençant à enseigner. Mais déjà, il y en était question avant la guerre de 14. Et donc, quel rôle des parents dans l'école, quelle méthode dans l'école, etc. Bon, voilà. Il y a plein d'articles, plein de débats sur la religion. Alors, bon, vous connaissez peut-être l'expression tirée de Marx, l'opium du peuple. Bon, la question, elle est vachement plus complexe que ça. Voilà, donc bon, il faut se référer au texte d'origine de Marx, qui est, bon, il ne faut pas isoler la phrase « l'opium du peuple ». Bon, c'était quand même un philosophe qui réfléchissait à plein de choses et sa pensée plus complexe que ce que la vulgate stalinienne a voulu répandre. Bon.
C'est l'esprit d'un monde sans esprit.
Voilà. Ouais. Donc il y a des débats sur la religion. Il y a effectivement, bon, est-ce qu'on peut être communiste ou socialiste, militant révolutionnaire ? Hein, c'est un débat qui existe encore, mais c'est une question qui se pose encore pour les militants révolutionnaires aujourd'hui, ou militants syndicaux, militants socialistes ou communistes. Je parle du PC actuel aujourd'hui encore. Hein. Mais, bon, il y a des comment dire, bon, je ne suis pas spécialiste de maths, mais j'ai au moins retenu la théorie des ensembles. Il y a des ensembles qui se recoupent, et en particulier l'ensemble, comme la religion catholique est quand même encore très influente aujourd'hui en Maine-et-Loire, l'ensemble religieux et l'ensemble politique de gauche, socialiste et communiste, ça se recoupe. Et ça se recoupe même aussi pour l'ensemble ou le sous-ensemble révolutionnaire. Voilà, bon. On va peut-être en débattre. Et alors
Fred, peut-être justement, c'était l'occasion.
Conclusion. Conclusion. Donc j'arrive à la fin. J'ai abusé. conclusion, donc. 1921-1923, en fait, c'est la période où le mouvement ouvrier en Europe est sur le déclin. Il y a eu l'ascension à partir de 1917, 1918, 19, 20. Au niveau européen, ça a culminé en 1920. On peut dire que ça culmine aussi avec les espoirs nés de l'approche de l'armée rouge, l'armée rouge qui approche de Varsovie. Alors bon, c'est à discuter aussi, mais il y a beaucoup de gens qui espéraient qu'avec l'arrivée de l'armée rouge en Pologne, si l'armée rouge avait pris la Pologne, la révolution aurait lieu en Allemagne. Bon, et de l'Allemagne, alors principale puissance, une des principales puissances capitalistes en Europe, donc avec une classe ouvrière nombreuse, éduquée, structurée, disciplinée, etc. Bon, la révolution pourrait arriver en Allemagne et de là ensuite en France, où le mouvement ouvrier était quand même moins développé. Mais bon, il était aussi en phase ascendante. Bon, l'armée rouge s'est arrêtée sous les murs de Varsovie. Le mouvement ouvrier, lui aussi, la vague de grève s'est arrêtée. Et ensuite, si on regarde tous les indicateurs, hein, c'est-à-dire le nombre d'adhérents, des syndicats, des partis communistes ou socialistes, tout ça, ça redescend après. Donc après, c'est une vague contre-révolutionnaire qui arrive dans certains pays, comme l'Italie, avec l'arrivée au pouvoir de Mussolini en octobre 22. Bon, les nazis commencent, bon, il y a le putsch de la brasserie en 23. Donc, en gros, disons, à partir de 1921, l'international communiste pose la problématique du front unique, c'est-à-dire pour les communistes, d'arrêter de considérer les réformistes comme des ennemis de classe avec qui il faut avoir aucune relation, mais se dire, bon, peut-être qu'il faut sauver les meubles du mouvement ouvrier et passer des accords partiels, bon, pas sur le programme à long terme, mais des accords de défense du mouvement ouvrier, de l'ensemble du mouvement ouvrier face à une extrême droite qui monte, un patronat revanchard, etc. Bon, un patronat qui, par exemple, en Maine-et-Loire, refuse d'appliquer en 1920, bon, d'après ce que j'ai, des fiches que j'ai faites, bon, il y a peut-être 40 ans, hein, bon, tu sais, bon, qui refuse d'appliquer la loi des 8 heures. La loi est votée en 19. En 1920, il y a des grèves en Maine-et-Loire parce que les patrons refusent de... Enfin, des tentatives de grève ou des mouvements, enfin, bon, des débrayages, parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir les 8 heures dans l'entreprise. Donc voilà, il y a cette espèce de vague contre-révolutionnaire qui commence, et donc cette proposition de front unique. Alors là, il y en a des pages et des pages, avec tous les arguments dans tous les sens. Voilà. Bon. Et malgré tout, donc je pense que voilà, faut garder la révolution comme horizon.
Et en Allemagne, ça a été stratégie de classe contre classe. Sauf communiste contre socio-démocrate.
Ouais, mais là...
Et ils se sont tiré une balle dans le pied. Et il y a un livre, je ne veux pas fermer, mais il y a un livre d'un certain Juan Rustico qui s'appelle « La tragédie du prolétariat allemand » et qui décrit comment il se tire une balle dans le pied en déroulant le tapis aux nazis ou aux réactionnaires, mais tendance qui existe un peu court.
Bon, là tu parles en fait de la fin des années 20 en Allemagne.
Oui, toutes les années 20.
Ce que je veux dire là, c'est que bon, un des trucs qu'on comprend quand on étudie de près l'histoire du mouvement social, c'est qu'en fait, c'est pas un mouvement, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à la social-démocratie avant, c'est pas un mouvement linéaire, quoi. C'est pas, y a pas une montée régulière, des espoirs dans le socialisme, et, bon, avec une montée régulière du nombre de syndiqués ou du nombre d'électeurs socialistes, des choses comme ça. C'est... en fait, tout ça, c'est ballotté par... l'alternance aussi. Alors il y a des facteurs économiques qui jouent, c'est-à-dire les périodes d'expansion économique où quand tout va bien, les salaires augmentent, les syndicats s'enforcent, le niveau ouvrier peut se développer. Et puis il y a les périodes, les retournements de tendance, période de dépression, où il y a énormément de chômeurs, donc ça devient beaucoup plus risqué de militer dans une entreprise. Bon, ça peut se trouver aussi en période ascendante, mais bon. Et donc le mouvement ouvrier, parfois, suit les cycles économiques. Mais il y a aussi les cycles politiques. Il n'y a pas de...
Je vais pas permettre de couper, que ce soit pas juste un monologue entre vous deux, s'il y a d'autres questions aussi pour interroger.
Ah oui, je suis d'accord, c'est beaucoup.
Hein. Et c'est pour ça que je me permets de t'interrompre d'ouvrir aussi le débat à d'autres personnes qui voudraient interroger et poser des questions sur la bouche. Non, mais c'est juste laisser la place à d'autres personnes.
Oui. J'ai peut-être brassé trop de trucs à la fois, quoi. Non.
Moi, j'ai une question, c'est sur la... Si tu aperçois une spécificité... Enfin, il y en a, forcément, des spécificités, mais... En gros, les spécificités du mouvement ouvrier en Maine-et-Loire, qu'est-ce qu'il aurait de différent par rapport à des départements limitrophes ou même à d'autres départements un peu plus lointains, mais...
La spécificité, c'est que, en gros, c'est un mouvement ouvrier qui est faible par rapport à des départements comme le Nord ou la Seine, enfin la région parisienne, avec des bastions, où il y a des bastions ouvriers, avec beaucoup d'élus. La spécificité, donc, c'est un mouvement ouvrier faible, avec quelques îlots comme... évidemment, il y a Trélazé. Bon, là, vraiment, c'est le phare révolutionnaire en Anjou. Il y a à Angers le quartier de la Doutre, le quartier Saint-Michel. Bon, puis c'est à peu près tout, quoi. S'il y a peut-être le quartier de la Madeleine où il y a une coopérative. Mais quand on regarde, par exemple, l'implantation des coopératives ouvrières qui sont étroitement liées au militantisme syndical, des coopératives ouvrières à l'époque en Anjou, il y en a dans la Doutre. Tout le monde voit où est la Doutre. Non, c'est... Bon, tout. Le quartier Saint-Michel, le boulevard Saint-Michel, quoi, pas très loin du centre-ville, qui était un vieux quartier qui, comme la Doutre, a été détruit dans les années de l'après-guerre, quoi. Et puis le quartier de la Madeleine. Donc il y avait des coopératives ouvrières dans ces trois quartiers. Il y avait une coopérative dans ce qui est aujourd'hui la rue Anne Frank, qui était la rue de la Juiverie à l'époque. Bon, c'est tout un programme. Hein. Bon. Voilà. Et sinon, en dehors, il y a le bassin ardoisier de Segré. Et puis, il y a les tisserands de Cholet, où les communistes sont minoritaires. Mais enfin, bon, il y a quand même un front syndical assez important. Et à Saumur, bon, il y a le petit noyau autour de Louis Bouet et de quelques instituteurs syndicalistes révolutionnaires, quoi. Mais c'est vraiment très limité, quoi. C'est... Bon. Alors, donc peu nombreux, mais très radicalisés. Avec, il y a un mémoire de maîtrise qui a été publié en 64 par Jean-Paul Brachet, certains ont peut-être connu, qui a été un des responsables de la Fédération socialiste de Maine-et-Loire dans les années 70-80. Son mémoire de maîtrise, c'est Trélazé, foyer anarcho-syndicaliste avant 1914. Alors, c'est un peu succinct ce qu'il a écrit. Bon. Mais il avait le mérite de pointer, effectivement, ce phénomène. Un positionnement du mouvement ouvrier plutôt à majorité anarchiste et avec quelques pôles, dans la Doutre en particulier, quelques pôles socialistes de gauche. Quoi. Voilà. Et réformistes, quand même aussi. Mais bon, c'est... Enfin, en gros, le mouvement ouvrier angevin est plutôt plus à gauche que le mouvement ouvrier global, avant 14. Bon. Et après la guerre, c'est partagé, parce qu'effectivement, il y a Ludovic Ménard, qui a une influence importante à Trélazé. Donc à Trélazé, c'est partagé, quoi. Il y a les syndicalistes, il y en a qui connaissent peut-être un peu mieux que Arnaud, que moi, le milieu de Trélazé, après la guerre, mais il y a une partie du milieu ardoisier qui est restée révolutionnaire, donc qui va être la CGTU et aussi assez rapidement à la CGTSR, donc CGT Socialiste Révolutionnaire. Enfin, CGTU, j'ai pas expliqué, c'est la partie de la CGT qui était révolutionnaire après la guerre et qui a été exclue de la CGT petit à petit par fédération entière en 1921, qui a fini par former une deuxième confédération qui a été prise en main quelques années plus tard par le Parti communiste au niveau national, ce qui a déterminé la sortie de cette CGTU de ceux qui étaient syndicalistes révolutionnaires ou libertaires. Bon, en particulier, il y a François Bonneau, que je n'ai pas cité, mais qui est un des principaux personnages de l'époque. Enfin, juste après la guerre, en gros, les militants les plus en vue, les militants révolutionnaires les plus en vue, à Angers, c'est François Bonneau, donc, qui était en 1914, va-t-en-guerre, Union sacrée, tout ça, il était jeune, il était tout jeune. Bon, il a été incorporé en 14, et très vite, il est devenu antimilitariste. Et donc, Bonneau est devenu libertaire pendant la guerre. Comme il était communiste libertaire, en gros, il a adhéré au Parti communiste, quand le Parti communiste s'est formé. J'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, par la suite, il est allé à Moscou. Mais donc, oui, c'est ça. Bonneau n'a pas supporté le nouveau régime à l'intérieur de la CGTU et il est allé à la CGTSR par la suite. Enfin, ceux qui étaient syndicalistes révolutionnaires, à Trélazé, aussi, sont passés à la CGTSR. Donc, voilà. Bon.
Il faut bien comprendre que la Première Guerre mondiale, c'est vraiment un point de bascule. Il y en a qui trahissent, enfin peu importe comment on les dit, on les explique ou les excuse pour partir en guerre. Mais il y a plein de gens qui rentrent en guerre, à l'image de Bonneau, et qui sortent en fait révolutionnaires, enfin anticapitalistes et tout ça. C'est pas forcément net. Bonneau, qui devient une personnalité politique de premier plan, mais aussi syndicaliste, il reste longtemps le secrétaire de la CGTU, y compris quand la CGTU est bolchevisée. Et ça prouve aussi l'impact du poids des syndicalistes révolutionnaires et des libertaires en Anjou. Il y a plein de gens comme lui qui créent au départ et qui rentrent dans le premier parti communiste, qui se créent vraiment. Il y a plein de libertaires qui sont de sensibilité libertaire, qui rentrent dans ce parti communiste. Le Parti communiste, au départ, c'est aussi bien des gens qui sont révolutionnaires, ils ne veulent plus de cette société, ils ne veulent pas revivre une guerre. D'autres qui sont un petit peu plus construits politiquement, qui sont issus du socialisme, avec les idéaux, faut bouleverser la société, peu importe que ce soit par la politique ou par l'insurrection. Et puis, il y a toute une frange, et qui est assez présente dans le mouvement ouvrier en juin, qui est liée à un syndicalisme, où on doit prendre nos affaires en main. Et ce parti communiste, il se crée comme ça. Et très vite, il y a des dissensions. Mais c'est aussi peut-être une spécificité qui est en Anjou. C'est que ce parti communiste, puis après surtout l'Anjou communiste, dont a parlé Fred, et c'est super bien décrit dans son bouquin, c'est quelque chose de multiforme qui reste en place malgré des désaccords profonds, des inimitiés vraiment profondes. Ils arrivent à cohabiter ensemble au travers d'un journal et c'est pas forcément une chose très simple. Peut-être que c'est aussi possible parce que Bouet est très loin et que ça permet que, comme il est très loin, il n'est pas si présent que ça, notamment dans la vie locale angevine et trélazéenne.
Enfin, très loin, c'est Saumur. Hein.
Oui, mais par rapport à l'époque, c'est quand même quelque chose, c'est pas simple. On n'est pas à une heure de voiture.
Non, mais pour faire leur réunion départementale de l'école émancipée, enfin du syndicat des instituteurs, ils prenaient leur petit vélo, enfin surtout quand il faisait beau, leur petit vélo, et ils arrivaient quand même à faire des réunions. Bon, ils n'étaient pas très nombreux non plus.
Et il y a plein de gens aussi qui sont formés dans les différents mouvements révolutionnaires, parce que même le Parti Socialiste est quand même une branche un peu révolutionnaire, qui sont formés avant-guerre dans ce qu'on a appelé les jeunesses syndicalistes. Alors il y a eu une première tentative de jeunesse syndicaliste autour des années 1905, mais après qui se structure à partir de 1908, quand la CGT, et là je ne suis pas forcément d'accord avec toi, devient moins syndicaliste révolutionnaire, au contraire, c'est des anciens révolutionnaires, syndicalistes révolutionnaires ou libertaires qui sont toujours à la tête, mais ils trahissent déjà un petit peu leurs idéaux et ils sont critiqués par les plus radicaux de leur mouvance. Et les jeunesses syndicalistes servent un peu d'ossature intellectuelle à cette reconstitution. Il y a plein de gens qui ont milité dans les jeunesses syndicalistes, qui deviennent des personnalités syndicales ou politiques de premier plan après la Première Guerre mondiale, mais qui ont été formés à cette époque-là. C'est Bonnat, c'est des gens comme ça, qui sont assez connus.
Sur un autre sujet, mais j'ai une question. Tout à l'heure, tu parlais de l'antisémitisme à gauche. Déjà, je pense que c'est assez juste de dire à gauche et pas de gauche, quoi, parce que c'est c'est plutôt des idées qui passent à gauche plutôt que des idées qui sont produites par la gauche. Mais en fait, ma question, c'est parce qu'aujourd'hui, ça existe toujours, en fait. Enfin, genre, par exemple, sur Mélenchon, qui dit des trucs, qui relate un peu le mythe des Juifs qui ont tué Dieu, ce truc un peu antisémite. Et puis même, il avait dit un truc sur Zemmour qui était... raciste, non pas parce qu'il était d'extrême droite, mais parce qu'il était juif, quoi. Il avait pas dit exactement comme ça, mais en tout cas, c'était un truc assez limite. Et bref, tout ça, en fait, si ça existait déjà à l'époque, ma question, c'était pas par qui c'était combattu, comment, et pourquoi est-ce qu'on a toujours ça 100 ans après, quoi. Plus de 100 ans après. Mais.
Alors, je peux... Bon, je vais te répondre. Je vais essayer de pas être trop long. En fait, quand on regarde comment ça se passe dans l'Anjou communiste, parce que c'est dans l'Anjou communiste que ça s'est produit, c'est, comment dire, il n'y a pas d'article théorique ou d'article de fond qui soit antisémite. J'en ai parlé tout à l'heure. En fait, il y avait une page ou une demi-page qui était des petites piques sur des personnalités locales, bon, ou des gens. Il y a une pique, par exemple, sur deux prêtres en soutane qui étaient dans le centre-ville d'Angers et qui étaient visiblement en état d'ébriété. Donc, voilà, il y en a 3-4 lignes, quoi. Et puis, il y a des piques sur le propriétaire d'un journal qui était diffusé en Anjou, et qui était juif. Et là, il y a un truc, c'est clairement antisémite. C'est, il est juif, donc il a du fric, etc. Enfin, voilà, c'est tout le... Et donc je pointe ce truc-là, parce que en fait, dans l'Anjou communiste, il n'y a pas de réponse directe à ça dans le journal. C'est... Donc Louis Bouet était... Bon, il était éclairé, il était contre l'antisémitisme, tout ça... mais il n'a pas fait de réponse directe. Alors, c'était un peu, comment dire, l'Anjou communiste, c'était un peu comme l'effort social. Le principe, c'était la libre expression. Donc, les militants de base, qu'ils soient... c'était pas forcément au PC, hein, ils pouvaient être syndicalistes, ou ils pouvaient être membres d'une coopérative, c'était dans la mouvance. Bon, ils font un petit article comme ça. Louis Bouet... il ne leur tombe pas dessus à bras raccourcis. Il n'y a pas, la semaine suivante, un démenti, disant non, enfin, une reprise de la question. Mais il va publier un article de Victor Serge qui évoque l'antisémitisme en Russie à l'époque des Tsars. Et par ce biais, il y a tout un développement sur la lutte nécessaire contre l'antisémitisme. Bon, mais ça va être quelques lignes seulement. Évidemment, il n'y avait pas eu la Shoah. Donc, ça peut paraître, anodin, une petite touche comme ça. Le problème, c'est qu'en laissant passer plus ou moins des trucs comme ça, alors évidemment, je sais pas, j'ai pas de compte-rendu de réunion, de comité de rédaction, ça n'existe pas, de l'Anjou communiste, où en fait, c'était des articles qui arrivaient, qui étaient souvent faits à Angers, et qui arrivait par la poste à Saumur, dans la boîte aux lettres de Louis Bouet, et ensuite il faisait composer le journal par l'imprimeur de Saumur, quoi. Mais voilà, il y a pas de... On a aucun document sur cette question-là. Louis Bouet a écrit des mémoires dans les années 60, un peu avant... Enfin, non, dans les années 30, et qui ont été publiées en 69. Dans ces mémoires, il y a rien sur cette question-là. C'est muet. Sur la présence de l'antisémitisme, en fait, j'ai... c'est toujours limite, mais dans les mémoires de... Enfin, les carnets de lutte de François Bonneau, il y a un passage, c'est un épisode qui je crois que c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une réflexion... Vous me corrigez si je me trompe dans la référence, mais il y a un passage où il évoque un juif, et il met en évidence le fait qu'il est juif, quoi. Bon, dans l'ambiance de l'époque, sous Pétain, ça la fout mal. Et il était libertaire, bon, il n'était pas du tout collabo, mais je pense qu'il y a une certaine imprégnation du mouvement ouvrier d'avant, d'une partie, hein, quand même, faut pas, bon, d'une partie du mouvement ouvrier d'avant-guerre, d'imprégnation antisémite. Alors après, dans le Parti communiste, à ma connaissance, alors le Parti communiste stalinisé, bon, dans ce Parti communiste stalinisé, il y a eu beaucoup de militants juifs, en particulier des émigrés polonais, donc, puisque la Pologne était devenue indépendante après la Révolution russe, mais le nouveau régime polonais de l'entre-deux-guerres, c'était pas terrible, et il y a beaucoup de... Il y a peut-être des questions sociales, mais il y a pas mal de militants juifs qui, en fait, ont atterri en France et ont été structurés politiquement. Ils étaient peut-être déjà avant, mais bon. Ils se sont organisés dans le Parti communiste et la CGTU. Et le fait qu'il y ait eu déjà à la fin des années 20 une structure main-d'œuvre immigrée ou main-d'œuvre étrangère avec non seulement de l'émigration italienne antifasciste, mais aussi des immigrants juifs, effectivement, ça devait quand même à supposer qu'il y ait eu des militants qui exprimaient des tendances antisémites. Bon, je pense qu'il y a eu un contre-feu tout de suite, quoi. Et à plus forte raison, dans le mouvement trotskiste, Trotsky étant lui-même d'origine juive. Mais voilà, ça dépend des groupes, ça dépend de pas mal de facteurs. Quoi.
Pour une dernière question ?
Si,
la dernière.
Si tu veux. En dernier, tu parles du pluralisme qu'il y avait donc dans l'effort social et dans l'enjeu communiste. On en avait déjà discuté une fois, et je te demandais... si la disparition justement de ce pluralisme n'était pas liée à l'évolution négative de la révolution russe, parce que je pourrais penser comme ça, mais tu avais nuancé un peu, est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses de ça?
C'est très clair, hein. C'est la disparition de l'enjeu communiste, donc comme tribune, enfin en gros il y avait l'effort social, mais qui a disparu dès 22, donc il y avait une tribune libre... du mouvement, de l'ensemble du mouvement social jusqu'en 1920, puis des réformistes pendant les quelques mois où ça a survécu. L'enjeu communiste, c'était la tribune libre des révolutionnaires, en gros. Hein, qui soit, enfin, il y a même eu, avant la disparition de l'enjeu communiste, quand, je pense, Maurice Fèvre, un des animateurs, un des anciens du PC, du premier PC, hein, qui était militant libertaire, quand je pense avec Bono, quand ils ont créé un groupe, alors je crois que c'était la Fédération anarchiste, ça a beau être l'Anjou communiste, l'annonce de leur réunion publique, elle est dans l'Anjou communiste. Il n'y a pas de barrage à ce qu'est l'annonce de différents groupes à partir du moment où ils étaient du bon côté, c'est-à-dire du côté révolutionnaire. Quoi. Alors, qu'est-ce qui a entraîné la disparition de cet aspect-là, qui est en fait la disparition de l'enjeu communiste, c'est une mesure bureaucratique. Ça, c'est très clair. Les plus nombreux... il y avait une sorte de regroupement régional qui était centré sur Tours, qui comprenait, alors, si je me souviens bien, une structure régionale communiste, qui comprenait la Sarthe, le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, la Vienne, alors peut-être à un certain moment la Vendée, bon, et la Loire-Atlantique. Et le centre était à Tours. Et à un moment, ils ont dit, alors, est-ce que c'est pour des raisons financières, mais je pense qu'il y a quand même un fond politique. À un moment donné, ils ont dit, bon, il y a trop de petits journaux locaux, on va faire un seul grand journal régional. Bon. Dont la rédaction sera à Tours. Et c'est ça qui s'est passé à la fin de 1923. Et ce journal-là, l'Avant-Garde, bon, j'en ai eu quelques exemplaires. À partir du moment où, sur quatre pages, il devait y avoir tous les départements, enfin l'activité sociale, politique de la gauche révolutionnaire dans tous les départements. Bon, c'est évident qu'un département comme le Maine-et-Loire passait sous la table, ses débats internes passaient sous la table, et la majorité des militants qui étaient à Tours, bon, étaient plutôt, alors, à l'époque, dans le Parti communiste, c'était d'anciens majoritaires socialistes qui avaient suivi la majorité de Tours, et qui ont, enfin, qui c'était des suivistes, en fait. Ils suivaient la majorité nationale. Et donc, comme Bouet était plutôt à la gauche du parti, n'était pas toujours d'accord. Quand il n'était pas d'accord, il le disait haut et fort. Donc, bon, il est quand même resté au PC jusqu'en 30, mais bon, lui espérait un redressement qui ne s'est jamais produit. Mais voilà, à partir de 24, en gros, c'est l'exclusion au plan national des dirigeants qui avaient été à l'origine du mouvement, enfin du redressement du mouvement socialiste et syndical pendant la guerre. C'est-à-dire Alfred Rosmer et Pierre Monat, qui avaient fondé en 1910 la revue La Vie ouvrière, donc qui avait été l'âme en fait de la lutte contre la guerre au niveau syndical pendant la Première Guerre mondiale. Et puis Souvarine. Boris Souvarine, qui était de la gauche du Parti Socialiste, qui était, qui a mal fini. Il a fini au Figaro, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais bon, à un moment, il était un peu arrogant. Et donc, il s'est fait beaucoup d'ennemis dans la direction du Parti communiste à l'époque. Et il s'est même fait jeter alors qu'il était à la direction de l'Internationale communiste, quoi. Il s'est fait jeter un moment par la direction du Parti communiste français au début des années 20 et exclu en 1924. Voilà. Donc effectivement, là, fin 1923, début 1924, c'est un tournant. C'est la bureaucratisation du Parti communiste qui part en fait de la bureaucratisation de l'Union soviétique qui elle-même, si on regarde à la loupe, elle a commencé très tôt. Enfin, je veux dire, même Lénine en parlait avant sa mort. Donc, il y a eu des débats internes au parti bolchevique russe très tôt, quoi. Très tôt après la Révolution. Hein, quand la plupart des militants sont morts pendant la guerre civile, que ceux qui les ont remplacés n'ont pas de formation antibureaucratique ou de méfiance naturelle envers la bureaucratie, après, c'est effectivement le règne des apparatchiks. Et de ce point de vue-là, bon, je vais terminer là-dessus, je pense que c'est le mouvement libertaire, hein, je veux dire, c'est pas pour faire plaisir aux uns ou aux autres, mais ceux qui ont le plus travaillé sur les questions du pouvoir, donc avant 17, avant 14, c'est les libertaires. Ce que peut entraîner le fait d'avoir un pouvoir absolu, pouvoir de direction, sans contrôle ou avec peu de contrôle. Dans la social-démocratie d'avant 14, Lénine, il était en admiration devant la social-démocratie allemande qui était structurée très verticalement. Je vous ai parlé du rôle de la social-démocratie allemande par rapport aux syndicats, mais c'était le fonctionnement lui-même qui était très vertical. Et la seule qui mettait en cause, plus dans des correspondances internes, ce fonctionnement vertical, c'était Rosa Luxembourg. Bon, elle avait l'expérience, puisqu'elle avait été à la direction de la social-démocratie allemande, elle a vu l'expérience de ce que pouvait être une bureaucratie politique, celle du Parti social-démocrate, mais aussi la bureaucratie syndicale, qu'elle jugeait plutôt réactionnaire, enfin, d'un point de vue socialiste.
Ben merci.
Merci. Merci. Merci. Merci.